Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Amen. On va rentrer dans cette série durant tout ce mois. Et Dieu créa Ish, Isha. Et on commençait, c'est vraiment dans le jeûne et la prière qu'on s'est dit sur quoi on va aborder, quel est notre thème de février. Et Dieu nous a mis à cœur qu'il y avait plusieurs familles, il y avait plusieurs défis présentement de couple. Il y avait plusieurs défis, pas seulement ici, mais partout. Partout sur Terre, il y a des défis de couple. La première chose qui a été attaquée dans le jardin, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas l'argent, c'est un couple qui a été attaqué dans le jardin. Et quand je regardais les statistiques, 80% des parents célibataires sont des femmes. 276 000 mariages pour 152 000 divorces. C'est pas mal de divorces, ça c'est l'année passée. 7% des personnes qui ont divorcé, plus ou moins, vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas mal quand même. Il y a déjà plusieurs personnes. Il y a 50% des enfants qui naissent hors mariage et sans père fixe ou pas de père. Et pour moi, je crois que les gens qui n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. L'autre chose que je vois, c'est que les situations financières précaires augmentent les risques de mort. Une des statistiques que je regardais, c'est de dire que la pauvreté augmente par 4 le risque de mort prématurée. La fatigue, la dépression, les addictions. Il y a aussi des problèmes, d'autres défis, comme les défis d'hormones, famille, solitude. On va se dire des vraies choses aujourd'hui. Il y a des défis. Et à cause du fatalisme de plusieurs, il y a plusieurs qui disent, écoute, moi je vais mener plusieurs vies de couple. À quoi ça sert d'avoir un partenaire? Écoute, je vais aller dans le buffet des continents. Puis j'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi ce matin. Si c'est toi ce matin, je vois quelqu'un qui baisse sa tête, baisse pas ta tête. Dieu a une parole pour toi, il va te convaincre. Amen? J'aimerais te dire aussi quelque chose, t'avertir aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es venu pour un message qui va être confortable pour toi, tu es venu à mauvaise journée. C'est vraiment un message qui va te déranger. Donc, prépare-toi à être dérangé. Prépare-toi à être challengé. Prépare-toi à être défié. Si peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas entendu certaines choses qui ont été abordées dans l'Église. Aujourd'hui, c'est le genre de dimanche, si tu es un habitué de l'Église, tu vas dire, le pasteur a dit ça à l'Église? C'est pas croyable. Pourquoi il a dit ça? Puis, j'aimerais te dire, ne sois pas trop brusqué, parce que notre Jésus, dans son temps, il a dit des choses que les pharisiens n'osaient pas dire. Parce qu'il y avait des défis dans ce temps-là et Jésus a été un exemple. C'est l'exemple parfait de qu'est-ce que nous devons faire en tant que prédicateurs. C'est défier tout ce qui est de la société, défier ce qui emmène les gens vers la perdition. Quand il y a la majeure partie des gens qui vivent le divorce, quand on voit des couples déchirés, des enfants déchirés, quand on voit la pauvreté affecter la majeure partie des personnes, je crois que l'Église de Dieu a une parole. Mais ceux qui... Vous pouvez dire « Amen » n'importe quand. Hein, ça. Et Dieu a mis dans mon cœur cette parole qui se trouve dans Proverbes 18, 22. Vous savez, vous connaissez cette parole? Tout le monde la connaît. Même ceux qui ne vont pas à l'Église connaissent cette parole. « Celui qui trouve une femme trouve... »
Le bonheur.
Ah, trouve le bonheur. Quelques-uns. Trouve le bonheur. Alors, je me suis posé la question suivante parce que dans Proverbes 10, 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Maintenant, je fais ceci depuis quelques années, déjà une dizaine d'années, et j'aimerais te dire que nombre sont les couples que j'ai rencontrés qui ne vivent pas ce verset « La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin dans le mariage. » Ils sont dans le mariage ou ils sont dans une relation et ils sont pleins de chagrin et pleins de regrets. Alors, au lieu de jouer à l'autruche et de me cacher, je suis allé chercher la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons nous défier, nous allons trouver les vérités de la parole de Dieu et comment vivre cette bénédiction de l'Éternel afin d'être enrichi et que notre bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, ta bénédiction ne doit être suivie d'aucun chagrin. Ça va lui faire du bien. Peut-être pas à toi, mais à lui, ça va lui faire du bien. Ou à elle. Peut-être vous êtes ici ce matin, puis vous dites, est-ce que le bonheur pour les célibataires, vous êtes célibataire, est-ce que le bonheur pour les célibataires est possible? Ou peut-être vous posez la question, comment assouvir mes désirs? Je suis célibataire. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites que je n'ai pas d'attraction. Moi, je n'ai pas d'attraction pour les gens du même sexe que moi. Est-ce que l'homosexualité est une option? Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, est-ce que mon choix de partenaire a vraiment été le meilleur? Et qu'est-ce que je peux faire dans cette circonstance? Comment construire votre vie de mariage sur des bons fondements? Peut-être que tu es ici et tu as des conflits à répétition. Tu es dans une relation, tu vas de conflit en conflit et peut-être que tu es souvent fâché, frustré après ton mari ou après ta femme. Peut-être que tu es ici et tu as l'impression de purger une peine, une sentence de mort. Tu es au pénitencier. On voit que ceux qui rient ne sont pas en train de purger une sentence de mort. Hein? Peut-être que tu es ici et tu rêves à ce que serait la vie sans lui ou sans elle. Peut-être que tu es ici et tu vois, tu es marié et il y a une dégradation dans ta vie, dans tes relations et dans ta vie sexuelle avec ton mari. Peut-être que tu es ici et tu as ces défis-là. Peut-être que tu es ici ce matin et tu as l'impression que ton conjoint est de plus en plus loin de toi. Tu as l'impression que jour après jour, tu t'éloignes. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » J'ai une boîte ici avec moi et elle ne l'a pas attrapée. Pourquoi elle ne l'a pas attrapée? Tu aurais dû l'attraper. Mais non, tu aurais dû l'attraper. Non, je vais faire quelque chose ici. Je vais te lancer la boîte, puis tu vas l'attraper. Pourquoi elle l'a attrapée? Parce qu'elle le savait. Il y a tellement de personnes qui rentrent dans le mariage. Vous savez, on est préparé, et on est préparé par Walt Disney. On est préparé par et vous savez, j'aime ça, une fois de temps à autre, un bon film de romantique, ça fait du bien au couple. Mais j'aimerais te dire que Walt Disney, c'est pas vrai. Dans Walt Disney, hein, qu'est-ce qui arrive? Tout ce que tu as besoin pour le bonheur parfait, c'est rencontrer la personne. Hein? Le beau prince. Tout ce qu'il faut, il faut qu'il rencontre la princesse qui a eu une mère méchante ou une mère qui voulait lui faire du mal la belle-mère, la femme de son père, le roi, parce que sa mère est morte un peu plus jeune, lui fait du mal. Et là, quand elle rencontre le prince, nous connaissons tous la fin de l'histoire, et ils vécurent heureux. Après, le défi avec la vie, c'est que ce n'est pas la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que la vie relationnelle, c'est que pour avoir une bonne relation, il ne faut pas seulement que je rencontre la personne, mais il faut que moi-même, j'ai en moi ce que Dieu donne à chaque être humain, les atouts pour avoir de bonnes relations, une bonne communication, un bon engagement, une bonne fidélité envers mon époux ou mon épouse. Et la parole de Dieu nous parle de cela. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui cette phrase, et moi-même j'ai trouvé cette phrase, puis j'ai dit « Wow, je suis intelligent », un peu d'humilité ce matin. Et en toute humilité, j'ai dit « Wow, c'est vrai ça ». La phrase est la suivante, « Le présent dans le mariage sera votre passé qui sera votre présent dans votre futur. » Si seulement on comprenait cette phrase, on ferait attention à toutes les actions qu'on fait. « Le présent sera votre passé, vous pouvez le dire avec moi, qui sera votre présent dans votre futur. » Très souvent, on pose des actions, Et peut-être tu es dans une saison dans ta vie où est-ce que tu dis, ah, je vais sortir, moi je vais rencontrer une couple de personnes, puis je cherche the one. On va parler de ça, la bonne personne. Je cherche la personne. Puis quand je vais rencontrer cette personne, peut-être vous n'avez jamais dit ça, quand je vais rencontrer cette personne, la solution de ma vie. Toutes les choses vont s'accorder. Et j'aimerais te dire, si tu es dans cette saison-là, et tu dis, écoute, c'est correct pour toi, c'est pas correct pour la parole, mais c'est correct pour toi, parce que je ne sais pas dans quelle saison tu es aujourd'hui. Et dans cette saison ici, si tu es dans cette saison-là, j'aimerais te dire, rappelle-toi toujours que le présent sera un jour ton passé. Mais il restera présent dans ton futur. On transporte notre présent qui devient notre passé dans notre futur. Alors, qu'est-ce qu'on investit? Et nous allons voir aujourd'hui comment bien investir là-dedans afin que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne soit suivie d'aucun chagrin. Et Dieu ne bénit que ceux qui fonctionne conformément à sa loi. Vous savez, j'ai acheté une machine, et si je ne suis pas les instructions sur la machine, et je dis, OK, d'accord, je vais prendre cette machine, ce métronome, je vais le mettre dans mon frigo afin qu'il fonctionne, je vais y mettre un peu d'eau froide, d'eau chaude, et après ça, j'appelle le constructeur, je dis, il ne fonctionne pas ton métronome. Il va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Le mariage, c'est la même chose. Le mariage est une invention divine. Nous ne pouvons pas ne pas suivre les instructions de Dieu et après dire à Dieu, hey, ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons et nous dire, écoute, ton paquet ne fonctionne pas. Je n'ai pas grand amen aujourd'hui, mais moi j'y amène. Dieu est bon. Il nous faut respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Le produit, c'est le mariage. Et j'aimerais te dire que quand tu achètes un produit, il faut respecter le mode d'emploi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime dans Matthieu 19, 3, 4, dans Matthieu 19, 3, 4, c'est Jésus qui est confronté. Il est confronté sur le divorce. On lui dit, est-ce que c'est correct qu'une personne divorce? Parce que dans le temps de Jésus, qu'est-ce qui arrivait? On renvoyait sa femme pour n'importe quoi. Donc, un bon juif, tu prépares mal ta soupe, ah, et retourne chez ta mère. Moi, j'ai besoin d'une autre femme qui est capable de préparer. Il revient à la maison, le ménage est mal fait. C'est quoi? Hey, c'est la vie. Il y a des hommes qui veulent dire amen, mais qui restent calmes. Hein? Non, non. Non, c'est ça. Hey, je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, vous allez être dérangés. Et c'était ça. Alors, ils sont venus poser la question de manière subtile à Jésus, essayant de le piéger, en essayant d'avoir de l'autorité pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est comme certaines personnes qui viennent voir le pasteur. Pasteur, comment divorcer chrétiennement? Tu dis, OK, on va s'asseoir puis on va lire la parole de Dieu. Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus a ramené les pharisiens au commencement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va retourner au commencement. Et Jésus est retourné au commencement parce qu'une préparation pauvre produit une productivité pauvre. Pauvre préparation, pauvre productivité. Et le défi avec le mariage et le défi avec les relations, c'est souvent la préparation. Et très souvent, on va entendre, que ce soit les couples, que ce soit dans des relations qui sont des relations de fiançailles, on va entendre ce qui est souvent dit, c'est que je ne l'ai pas vu venir. Vous allez dans les séparations, tout ça, on entend, « Ah, mais comment il était? » Non, c'était bien, tout allait bien, puis je n'ai pas vu venir. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des signes. Il y a des choses. Et nous devons être conscients. Nous devons nous-mêmes être préparés. Proverbe 20, 18 dit, « Les projets s'affermissent par des conseils. Fais la guerre avec de bonnes directives. » J'aimerais te dire aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, le mariage est une guerre. C'est drôle, le mariage devrait être un duo, mais pour beaucoup, le mariage est un duel. Et il y a une grande différence entre un duo et un duel. Mais si tu te prépares à un duel, tu auras un duo. Amen? Pas grand amen là-dedans, hein? Proverbe 21:5, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui se précipite sans pour autant s'asseoir, sans pour autant planifier, sans pour autant voir, OK, je veux une nouvelle relation. Qu'est-ce que je veux emmener dans cette relation? Celui qui ne pense pas avant d'agir se prépare à la disette, se prépare à l'échec. Donc, aujourd'hui, l'Éternel nous emmène à la préparation parce que nous ne voulons pas une préparation pauvre pour un produit ou une productivité pauvre. Dans Genèse 2:18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ah, quel beau verset. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Mais dans la solitude dont Dieu parle ici, très souvent on prend ce verset pour le mariage. Ce verset ne parle pas de mariage. Ce verset ici parle de compagnie, la compagnie. L'homme était seul, la solitude de l'esprit, il ne pouvait pas partager sa vision avec personne. Et la solitude de l'âme, l'absence d'amitié, la solitude du corps, oui, il avait l'absence d'une personne avec laquelle il pouvait partager son vécu. Donc la première chose à laquelle Dieu voulait répondre n'était pas les besoins plus ou moins, qu'on appellerait aujourd'hui, je vais être assez clair avec vous, les besoins sexuels de l'homme, ce n'était pas ça. Dieu voulait répondre à la compagnie. La compagnie. Et c'est un grand défi parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mariées, mais vous n'êtes même pas des amis. Vous n'aimez pas la face de l'autre. Dès que ta femme commence à parler, elle te fait dormir. Dès que ton mari te parle, tu es déplogué. Puis j'aimerais te dire quelque chose, que Dieu a fait la femme afin que tu aies de la compagnie. Tu aies de la compagnie. Vous savez, on peut être ici dans cette salle, mais je peux être seul ici dans cette salle. Il peut y avoir 500 personnes dans cette salle, mais je peux être seul. Il y a des gens qui vivent leur mariage seul comme ça. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a vu que tu es seul. Dieu a regardé, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et c'est ce que Dieu voulait dire. C'est pas bon que tu sois tout seul à la maison, dans un coin atterré, dépressif, en te disant, « Oh, hey, mon pénitencier, ça va durer combien de temps? » C'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, une compagnie. Et dans la plupart des cas, il y a une femme aimante de bonne foi dans cette tentative d'aimer son partenaire, un couple harmonieux. Ceci dit, ils ne se sont pas préparés sur le côté compagnie. Il y a plusieurs défis là-dessus. Il y a des mariages qui sont arrangés. Il y a des mariages qui, plus ou moins, vivent des défis pécuniaires parce qu'on s'est marié à cause d'eux. Nous allons voir plus tard les mauvaises raisons de se marier. Et très souvent, nous pouvons vivre des défis parce qu'à la base, la fondation était mauvaise. Vous savez, si vous avez fait une erreur, quand vous faites de la construction, vous avez fait une erreur sur les vitres, c'est plus facile à arranger. Mais si tu as fait une erreur sur la fondation, il y a une compagnie, une grande compagnie de construction qui a fait des erreurs sur les fondations, ils ont eu des gros problèmes. Parce que quand la fondation n'est pas bien faite, et la fondation, c'est la compagnie, si ton époux n'a jamais été ton compagnon, commence à intercéder, commence à prier. Puis je vais dire des choses aujourd'hui, peut-être que tu te sens dans la situation, « Ah non, mais moi je suis dans cette situation. » Ne désespère pas, notre Dieu est un Dieu de restauration. La vérité blesse, le mensonge tue. Donc, prends courage. Amen. J'aimerais te dire aussi qu'il y a un défi aujourd'hui, le défi du contrôle. Il n'y a pas de compagnie parce que tout le monde veut se contrôler. Moi, il va faire ma volonté. Non, tu ne comprends pas. Il ne va pas faire ta volonté puis tu ne vas pas faire sa volonté. Oh, le mariage, c'est 50-50. Le mariage, ce n'est pas 50-50. Le mariage, c'est 100%. Tu emmènes tout ton corps, elle emmène tout son corps. Tu emmènes tout ton esprit, elle emmène tout son esprit. Tu emmènes ton meilleur, elle emmène son meilleur. Oh, elle ne me donne pas assez. Le mariage, ce n'est pas recevoir. Le mariage, c'est donner. trop de personnes rentrent dans le mariage en disant, « Bien, il ne me donne pas assez. Mais moi, give me, give me, give me, give me. » Et on va voir le défi de cela. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. Premièrement, Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Deuxièmement, il emmène les animaux. Ici, Dieu me donne un message à mon cœur. Présentement, je suis juste en train de voir que Dieu a laissé l'homme plus ou moins décider, voir qu'il n'avait pas de compagne. Alors, j'aimerais aujourd'hui détruire tout ce que la planète peut dire sur, écoute, on vient du singe, c'est bon pour toi. Si quoi, tu viens du singe, c'est bien pour toi, pas moi. Ceci dit, mon argumentation peut être longue, mais j'aimerais te dire quelque chose. Adam s'est assis, il a vu le singe, il a dit non, c'est pas moi. Il a vu la guenon passer, non. Il a vu l'hippopotame, non. Il a vu l'oiseau, non. Il les a tous nommés et il a dit, il n'y a personne pour moi. Il a chanté la chanson de Corneille, je suis seul au monde. C'est ça qui est arrivé. Seul au monde. Et devant cette impasse, c'est là que Dieu, et nous allons voir ensuite, Dieu va prendre la côte. Mais avant cela, Dieu me montrait quelque chose aussi au niveau spirituel. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ta vie, il y a des gens dans la société, il y a des êtres humains qui sont pour toi peut-être des guenons. Une guenon ou un singe, c'est quelqu'un qui va d'un arbre à l'autre. Et toi, si tu décides d'aller avec cette personne, peut-être que tu as des habitudes qui sont totalement différentes de la guenon. Puis, c'est là qu'on parle de compatibilité. Si toi, tu aimes rester assis à la maison, puis lui, il aime sortir, mais vous allez avoir du mal. Ça ne va pas fonctionner. Si tu es marié à un lion qui aime dormir, puis quand tu le réveilles, il se fâche. Oh, oh! C'est toutes des choses qu'il faut tester avant d'être marié. Et c'est pour cela que Adam s'est assis et il a vu à tour de rôle. Il a vu l'oiseau. Il a dit, il est parti dans ses visions, dans ses rêves, puis s'en va. Lui, là, l'oiseau, là, il a des projets, des projets. T'aimes pas les projets, marie-toi pas à un oiseau. Et il a vu qu'il n'y avait personne pour lui. En d'autres mots, Dieu m'a dit, sélectionne. Il y a une sélection. Tu dois faire un choix. Alors, si tu es dans un cas où est-ce que tu entends ça et tu dis, wow, je suis marié à un lion, puis je suis... Écoute, on va faire ce qu'on appelle, en termes informatiques, une mise à jour. On va devoir faire une mise à jour afin que vous deveniez compatibles par l'Esprit de Dieu, parce que nous croyons ici à l'Église Nouvel Espoir que c'est par manque de connaissance que le peuple périt. Ceci dit, mais quand nous ajoutons la connaissance de Dieu, nous sommes capables de devenir la nouvelle créature qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, Genèse 2:20 nous dit, « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Premièrement, j'aimerais te dire ici que Genèse 2:20 détruit ce mythe qui est donné dans le monde qu'on ne peut pas fonctionner quand on est seul. L'homme travaillait, là. Il était capable de nommer tous les animaux. Gros travail. Jusqu'à aujourd'hui, on découvre des animaux. Il travaillait fort ce jour-là. Appelait tous les animaux. Donc, tu es capable de vivre, tu es capable de fonctionner sans pour autant être marié. On va le voir plus tard. On va parler du célibat, des mythes du célibat et tout ça. L'autre chose que j'aimerais dire, tu vas dire, pasteur, alors comment je vais faire pour la sexualité? Écoute, Jésus... Et vous avez dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus n'a pas eu de relation sexuelle et Jésus a vécu ici. Jean-Baptiste a été vivant. La sexualité n'est pas un besoin. Il y a plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Paul n'était pas marié. Mais non, ce n'est pas la part de tout le monde. On ne va pas dire c'est pour tout le monde. Ceci dit, malheureusement, notre société... Juste dans la préparation de ce message, je dis à mon épouse, c'est incroyable comment notre société nous montre de la sexualité de partout. Et on est tellement bombardé que même notre inconscient pense à la sexualité. Et c'est un défi aujourd'hui. C'est réellement un défi et nous devons y faire face avec l'Esprit de Dieu. Nous devons y faire face avec sagesse. Nous devons apprendre comment canaliser nos désirs. Et nous allons le voir aussi dans cette série. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être tu es stressé aujourd'hui, tu te dis, « Ah, comment je vais trouver la femme de ma vie? » Peut-être que ici, tu es une femme aussi. J'aimerais te dire, « Ah, comment je vais trouver l'homme de ma vie? » Dieu, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et le sommeil de Dieu, c'est le sabbat. C'est relax. Okay? Tu es trop stressé. Tu as préchercher à gauche et à droite. Mais la première chose que tu dois faire, c'est relaxer dans le Seigneur. Relaxer dans le Seigneur. Dieu l'a fait dormir. Et une fois, il dormait, Dieu a pris une de ses côtes. Puis j'aime une de ses côtes parce que Dieu n'a pas pris sa tête. Il n'a pas pris sa tête afin que la femme vienne dominer. Dieu n'a pas pris son talon afin qu'elle soit écrasée. Mais Dieu a pris sa côte. Et ce qui est beau encore là-dessus, c'est que quand Jésus est mort à la croix, c'est le côté qui a été transpercé. Et l'Église est née de la résurrection de Christ. Alors, comme Jésus aime l'Église, Adam devait aimer Ève. Et n'oublie jamais, tu es un homme ici, n'oublie jamais. Je regardais sur des blogs, il y a un blog, un certain blog, où est-ce qu'il y a un homme qui disait, « Quand tu tapes bien ta femme, elle va bien t'aimer. » J'aimerais te dire que c'est faux. Je ne me censure pas là-dessus. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui, en 2014, des gens qui pensent que c'est normal d'abuser son épouse ou son époux. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de place pour cela dans la parole de Dieu. Alors là, tu vas me dire, ben comment ça? Comment Abraham a eu plusieurs femmes? Tout ce qui est dans la Bible ne veut pas dire que Dieu est en accord avec. Okay? Judas s'est suicidé, on ne va pas tous aller se suicider. Okay? Là, exactement la même chose. Abraham, tant qu'il ne marchait pas dans les voies de Dieu, tant que Dieu était en train de l'apprendre quelque chose, Dieu était en train de l'encadrer. D'ailleurs, Dieu appelle juste Isaac son fils. Dieu dit, Isaac, ton fils unique. Pourquoi? Parce que pour Dieu, les voies d'Abraham, ce qu'il est allé chercher, l'Égyptienne, de pouvoir coucher avec la servante de sa femme, ce ne sont pas les voies de Dieu. Ce ne sont pas les voies. Dieu rachète. Dieu restaure. Ceci dit, quand nous faisons des projets sans Dieu, nous avons un problème. Regardez la Palestine aujourd'hui, il y a encore des bombes qui explosent. Petite erreur. Hein? Petite erreur. Je suis certain qu'Abraham, du lieu où est-ce qu'il est, vous savez, Dieu rachète, Dieu fait un grand travail, mais quand on fait des erreurs dans la vie, il y a des conséquences. On n'aime pas entendre cela, mais il y a des conséquences. En soi, on amène notre passé dans notre présent futur. Alors, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte et qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. J'aime ce passage parce que Dieu n'a pas dit « Voici ta femme ». Dieu n'a pas dit « Voici ta moitié ». Dieu l'a juste amené devant. Et je vois dans le jardin. Je peux voir Adam juste ouvrir son œil un peu. « Wow, c'est quoi un mirage ?» Oh, wow! Oh! Et vous savez, aujourd'hui, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs, peut-être, personnes qui sont dans des religions musulmanes. Moi, je parle au nom du royaume de Dieu, je ne parle pas au nom d'une religion. Des gens qui disent ma culture, dans ma culture, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est telle personne qui choisit ma femme. Et j'aimerais te dire que si Dieu le Père n'a pas choisi la femme d'Adam et l'a emmenée devant, qui es-tu pour choisir la femme ou le mari de ton enfant? Oh, c'est silencieux ici. C'est silencieux ici. C'est silencieux. Tu ne vas pas vivre avec. Tu ne vivras pas avec. Et j'aimerais te dire que si tu ne vis pas les conséquences, ne signe pas le chèque. Ne signe pas le chèque. Et Dieu l'a emmené. Et quand Dieu l'a emmené, ma Bible me dit que l'homme a dit, « Voici cette fois. » Cette fois. En d'autres mots, il cherchait. Wow, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Voici cette fois, this is it. This is it. Pas la Michael Jackson, là, mais this is it. voici cette foi, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On t'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ève, elle a de la chance parce que, et Adam aussi, parce qu'il pouvait utiliser des nouveaux mots. On t'appellera femme. Imaginez-vous, moi, avec mon épouse, on commence, tu commences peut-être une nouvelle relation, on t'appellera femme. C'est pas très romantique. Mais je vois Adam et Ève, on t'appellera femme. Femme! Oh! C'est beau, femme! C'est splendide! Et on voit ici l'engagement. On voit ici que l'homme a fait un choix. On dit que l'homme a vu qu'elle est, elle est os de mes os, elle est chair de ma chair. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici est un autre défi. Plusieurs personnes se rencontrent, peu quittent. Quittent. Et quitter ne veut pas dire seulement quitter physiquement, veut dire quitter la culture de ta famille, quitter les habitudes de ta famille. Tu es, en tant qu'homme, tu es le protecteur de ta famille, tu es le prêtre de ta famille. Nous allons voir aujourd'hui que les hommes sont attaqués. C'est pour cela, même dans cette salle, va dans n'importe quelle église, tu vas voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont beaucoup plus attaqués que les femmes. Et les femmes, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous êtes là pour intercéder pour vos maris. Et je ne le dis pas en disant que vous avez une place qui est inférieure à l'homme, mais j'aimerais vous dire que vous avez une place privilégiée dans le plan de Dieu pour les hommes. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. En d'autres mots, il n'y avait pas de secret. Il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait rien à prouver. Et ils étaient ensemble. Et l'homme et sa femme n'avaient honte de rien. Ils n'avaient honte de rien. Dans Genèse 1, 27, si on retourne au début, c'est que Dieu créa l'homme à son image et il est écrit que Dieu créa, diapo 14, que Dieu les créa homme et femme. Dieu créa homme et femme. Et le terme ici, c'est le terme qu'on a pris pour cette série, c'est Ish et Isha. En d'autres mots, quand la parole de Dieu dit qu'il créa, il ne dit pas Dieu a juste créé l'homme mâle. Dit, Dieu a créé l'homme. L'homme qui a été créé à son image, c'est la femme et c'est l'homme. C'est le mâle et c'est la femelle. En d'autres mots, même si Dieu t'a créé en premier, que ce soit une parole de responsabilité pour toi et non pas une raison d'abus. Je n'ai pas grand amen ce matin, mais ça va venir. Dans la prochaine vidéo qui va passer dans quelques minutes, nous allons voir, juste un instant. Avant de passer à la vidéo, nous allons voir ce défi, le défi de Ish et de Isha, qui est un défi que nous aurons dans les prochaines années. Il semblerait qu'un des débats qui vient, à part le débat de l'homosexualité dans les prochaines années, c'est le débat de la polygamie. Et plusieurs personnes se disent aujourd'hui que dans les prochains 10 ans, ce que nous allons entendre de par les médias, de par la société, c'est est-ce possible pour un homme d'avoir 15, d'avoir 3, d'avoir 25 femmes. Il y a plusieurs femmes qui disent « No way, je ne laisserai pas avoir ça. » Mais c'est le débat qui s'en vient. Et nous allons voir ce débat de Ish Isha. Merci pour la vidéo.
Ali est une belle petite fille de 11 ans, comme les autres filles de son âge. Mais Ali, en fait, elle s'appelait Olivier. Ce soir, on vous propose donc un sujet qui est franchement délicat, très délicat, déstabilisant même, qui fait découvrir un univers que peu d'entre nous connaissent, celui des enfants transgenres, pas des adultes, pas des adolescents, mais des enfants qui, parfois très jeunes, sont malheureux dans leur corps de garçon ou de fille et veulent changer de sexe. Bouchra Ouattik, donc, nous présente ce soir le cas de deux de ces enfants.
What is that you're playing there?
It's your favorite game.
Annie-Colène Sans-Façon habite dans l'ouest de Montréal avec son mari, son fils Alex et sa fille Oli. Mais sur les photos de famille, ce sont deux petits garçons qu'on voit. Oli est né Oliver. Son désir d'être une fille était bien présent dès sa première journée à la maternelle.
Je vais toujours m'en souvenir parce que c'était la première fois qu'elle voyait les autres amis et elle a dit « Mais maman, pourquoi moi j'ai pas le droit de mettre une jupe? » Et donc je me suis fait « Voyons, Oliver, t'es un garçon, tu peux pas mettre de jupe, les garçons ça met des pantalons. »
Oli a aujourd'hui 11 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a commencé sa transition vers le sexe opposé.
Puis j'ai porté ma première jupe et ma première brassière. Puis la brassière, elle était comme over the top. Comme, elle disait, oh, pourquoi tu portes une brassière? T'es même pas supposée d'en porter un.
Et Yoli est loin d'être la seule enfant dans sa situation.
J'aimerais te dire aujourd'hui, premièrement, avant de parler, que je vais parler avec beaucoup de respect. Okay? On n'est pas une église homophobe. On est une église péchophobe. Il y a une totale différence là-dessus. Nous faisons face à n'importe quel péché. Ceci dit, il y a une place ici pour les gens qui recherchent Dieu, qui recherchent une seconde chance, qui recherchent une seconde vie avec Christ. Et nous ne voyons pas un péché plus grand qu'un autre péché. Ceci dit, Dieu nous met à cœur de confronter certaines réalités et nous allons le faire dans le respect. Dans le respect. Et nous savons ici que personne ici n'est parfait. Donc, en tant que pasteur d'église, je pense que c'est important que je dise ce que je viens de dire. Dans Romains 1, 20, 28, il est écrit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. J'aimerais te dire ce matin, peut-être tu es dans une situation dans laquelle tu te poses des questions. Peut-être que présentement, il y a tellement une pression de la société. J'aimerais te dire que même ce que je dis présentement, je le sais qu'il y a des gens ici, tu es ici, tu es peut-être outré par ce que je suis en train de dire présentement. Mais j'aimerais te dire que on ne peut pas changer ce que le Créateur a fait au départ. On ne peut pas changer ce que le Créateur a fait. Comme je te disais ce matin, quand j'ai reçu ma boîte, mon métronome, si j'avais décidé moi-même de l'usage, je suis libre. Je l'ai acheté le métronome, je peux le mettre dans le frigo, je peux sauter dessus si je veux. Ceci dit, celui qui a fait la machine a donné des instructions afin qu'elle fonctionne pour mon bien. Et de la même manière, Dieu nous a donné des instructions. Dieu qui nous a créés nous a donné des instructions afin que nous puissions vivre le bonheur. Le bonheur. Et c'est tout ce que nous voulons en tant qu'Église. Nous ne voulons condamner personne. Nous voulons vous convaincre qu'il y a un lieu dans votre vie où est-ce que vous pouvez trouver le bonheur. Le bonheur. C'est tout. L'Église n'a jamais été là pour condamner. L'Église a été là afin de convaincre les gens à une meilleure manière de vivre leur vie. Dans Lévitique 18, 22, c'est écrit de manière encore plus directe, « Tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches avec une femme. » C'est une abomination. Je sais qu'il y en a qui vivent ce défi. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'une personne ne fait pas une décision comme ça matinalement, qu'il y a des défis. Il y a des défis familiaux, il y a des défis hormonaux, il y a plusieurs défis. Ceci dit, il y a un lieu où est-ce que le Dieu de tous les défis guérit, restaure, transforme. Il y a certaines personnes, vous savez, j'ai des enfants, et des fois tu vas voir des choses qui sont plus naturelles à certains enfants. Il y a des enfants qui, dès qu'ils ont peur, ils vont mentir. Tout de suite. Et c'est naturel pour eux mentir. Mais je ne vais pas dire à mon enfant qui trouve ça naturellement tiède. Tu sais, c'est correct, hein? Dans ton cœur, tu vas faire la bonne affaire. Mais ton émotion, présentement, c'est le mensonge. Puis ton, tu sais, t'es plus porté à mentir. Puis continue là-dedans, puis moi, je vais être là pour t'encadrer. Non, je vais l'emmener avec amour. Je vais l'emmener à pouvoir surmonter son défi. Ça paraît banal. Nous avons tous ici dans cette salle des défis. Pour certains, c'est la sexualité. Pour certains, vous aimez dormir. Pour certains ici, vous aimez manger. Manger est votre défi. Vous ne pouvez pas vous arrêter de manger. Vous savez, la parole de Dieu dit que la gloutonnerie est un péché. On pourrait faire toute une série sur la gloutonnerie, là. Ceci dit, avec beaucoup d'amour, j'aimerais te dire ce matin que le Dieu qui ne veut pas que tu sois un glouton veut aussi que tu marches dans la vérité, dans ce qui s'agit de la sexualité. Et pourquoi? Parce que la sexualité a été faite pour représenter quelque chose de merveilleux, qu'est la louange. Vous allez dire, waouh, la sexualité et la louange. Pasteur, tu es déconnecté, là. On ne parle jamais de sexualité à l'église. Tu es là, tu es en train de dire que la sexualité et la louange, c'est la même chose. J'aimerais te dire que Jésus lui-même a dit, qu'au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Et la raison pour laquelle il n'y aura ni homme ni femme, c'est parce qu'on va être dans la présence de Dieu. On va être dans l'extase divin. On va être dans la joie. Si vous lisez la parole de Dieu, avant le péché, il semblait ne même pas avoir ce besoin-là. Adam et Ève ne semblaient ne pas avoir ce besoin. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans l'extase totale. Et oui, l'Église de Dieu ici est ici pour te dire qu'il y a un plaisir, il y a une joie dans la sexualité, mais la sexualité dans le mariage a été faite afin de représenter la louange, afin de représenter qu'est-ce qui arrive quand on est en alliance. D'ailleurs, même Jésus lui-même qui est mort, il est mort pour l'Église, il va se fiancer, il s'est fiancé à l'Église, il va se marier, il y aura le mariage de l'agneau, il va se marier à son Église. Pourquoi? Parce qu'il y a alliance entre son Église et lui, Jésus. Il y a une extase. Il y a quelque chose, il y a un lien qui se fait. Et j'aimerais te dire que comme Adam et Ève, oui, on marie, on croit au mariage à l'Église, puis n'utilisez pas ceci afin de dire, écoute, moi, je n'ai plus besoin d'être marié, mais ce qui fait l'alliance entre deux personnes, c'est la relation sexuelle. C'est la relation sexuelle. Tu es lié par la relation sexuelle. Et c'est pour ça même la parole de Dieu dit, qu'au travers de Jésus, il dit, un des moyens de sortir d'une relation, c'est quoi? C'est s'il y a adultère. Pourquoi? Parce que l'alliance a été rompue. Tu avais une alliance avec la personne et tu as rompu cette alliance. Et j'aimerais te dire ce matin, prends au sérieux la sexualité. Prends-la au sérieux. Prends, et Paul ira plus loin en disant que ceux qui livrent leur corps à n'importe quoi pêchent contre leur propre corps. Maintenant, votre appel n'est pas de devenir des sœurs catholiques. Votre appel n'est pas de devenir... Parce qu'ayant dit cela, je dis cela, puis le pasteur, mon mari, il y a des femmes qui vont sortir, si mon mari ne touche-moi plus. J'aimerais te dire quelque chose. Dans le mariage, il y a un lieu dans lequel Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que vous savourez cette relation. Dieu veut que tu savoures ce qu'il a donné. C'est Dieu qui a créé cela. Ce n'est pas le diable qui a créé cela. Dieu l'a créé afin que ce soit savouré dans le mariage. Et c'est pour cela que Dieu, quand il les a bénis, il a dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons et sur la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. » Et un des gros défis qu'on a, même au niveau de la sexualité et tout ça, il est relié à plusieurs choses. Une chose qui est un grand défi pour nous aujourd'hui, même pour l'Église aujourd'hui, c'est dans une relation, c'est qui la tête du foyer? C'est qui décide? Moi, je ne me laisserai jamais dominer par un homme. J'ai vu ce qui est arrivé à ma mère. Jamais! Et j'aimerais te dire que les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Au temps de Noé, toute la population a voté contre Dieu. Il y avait un homme et sa famille embarqués dans le bateau. Dieu n'a pas dit, « Oh, comme tout le monde vote contre moi, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver tout le monde? » Dieu voulait sauver tout le monde. Mais ceci, Dieu n'ira jamais contre ta volonté. Jamais contre ta volonté. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'aller ensemble aussi vers les racines de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le féminisme. Le féminisme n'est pas totalement mauvais. Vous savez que dans le cas de Napoléon, en 1804, les femmes furent classées dans la même catégorie que les criminels et les malades mentaux. Moi, j'aurais un grand problème avec ça. Si je serais une femme, j'aurais un super de grand problème avec ça. Parce qu'au début, au commencement de tout, Dieu a dit que l'homme, la femme, a été fait à son image. Comment tout à coup, elle devient à la même classe que des criminels? J'aimerais te dire que ta femme et toi, vous êtes le logo de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a le Super Bowl, pour ceux qui aiment le football. Et on va voir les logos des équipes. Ça me fait pomper. Moi, j'aime le sport. So, hallelujah. Et quand on va voir les logos des joueurs entrer, on sait quelle équipe va jouer l'un contre l'autre. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes le logo de Dieu. À l'image de Dieu. Vous savez, mon fils, il a mon image. Il y a plusieurs personnes qui voient, ah, ça, c'est le fils d'Emmanuel. Ceci dit, mon fils peut décider de mal agir. Il va toujours me ressembler. On dira toujours, c'est mon fils. Je ne pourrai pas renier mon fils. Ceci dit, s'il décide de marcher dans les voies que je lui montre, qui sont des voies de l'Éternel, écoute là, hein, écoute ça, c'est bon pour toi. Les voies de l'Éternel, il va avoir du succès dans sa vie. Et quand on voit ce que l'homme a fait vivre à la femme, jusqu'en 1945, les femmes votent pour la première fois en France. Alors, tout le monde peut donner une main d'applaudissement aux Français. Hein? Super! En 1945, les femmes votent pour la première fois. Et j'aimerais te dire que dans ce cri pour la libération féministe, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Tu es à la maison, tu dis « Je suis le prêtre de la maison. Je ne fais pas la vaisselle. » Si ça marche pour toi, continue à prier, parce que ça ne marchera pas longtemps. Peut-être les choses marchent dans ta tête. C'est comme l'époux qui va à la chasse, et il va avec ses amis, il se promène, puis sa relation va mal. Puis là, sa femme lui dit, écoute, on doit s'asseoir, on doit parler ensemble, on doit aller voir un conseiller, on doit faire de quoi. Puis lui, il revient, il dit, non, tout va bien. Il parle à ses chums, on dit, mais je comprends pas, il est toujours énervé, puis tout va bien. Il y a la chanson, tout va bien dans son auto, tout va bien. Tout va bien pour toi. Mais une relation, c'est deux personnes. Connecte. Je ne peux pas dire à Rogers, parce que moi, je fais la publicité pour Rogers. Moi, je fais des fois la publicité pour des compagnies. Je ne peux pas dire à Rogers, écoute, mon Internet fonctionne, j'ai pas de problème et tout ça. Quand Rogers décide de me déconnecter, ça ne va pas. Il va falloir que j'appelle la compagnie pour leur dire, écoutez, là, j'ai besoin d'être reconnecté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accès. Puis c'est ça, une relation. Si tu as une relation avec toi-même, il y a un problème. Il y a un défi. Et Dieu veut que nous surmontions toutes ces pensées que nous avons de la culture, de la société, parce que ce qui est biblique, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu lui-même. Et ce qui vient de Dieu, Galates 3, 28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme. Ouch! Pasteur, c'est-tu correct que une femme prêche ici à l'Église Nouvel Espoir? Je vais te dire, je le dis aux médias, c'est correct. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, comment ça? Ah non, la femme ne peut pas dominer sur l'homme. J'aimerais te dire que je préfère qu'il y ait un cœur, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour Dieu afin de gagner le maximum d'âmes possible au lieu de perdre des soldats et des soldates. Quel est ce général d'armée qui regarde les soldats et dit, OK, je ne vais pas te prendre, on pourrait avoir 10 000 soldats ici, mais je ne vais pas te prendre parce que toi, tu es une femme, toi, tu es noire, toi, tu as tel... Non, j'ai besoin de soldats. L'armée de Dieu a besoin de soldats. Oui, il y a des positions, oui, il y a des choses dans lesquelles certaines personnes ont beaucoup plus d'atouts, mais quand tu vois une dame comme par exemple Joyce Meyer, elle vaut plusieurs hommes. Elle vaut plusieurs hommes dans sa communication. Et ce n'est pas pour rabaisser l'homme. Elle n'est pas là pour rabaisser l'homme. Mais ceci dit, c'est beau de voir des gens qui ont l'impact pour Dieu. Nous voulons voir des cœurs transformés ou nous voulons avoir raison? Moi, je veux voir des cœurs transformés. Transformés pour Dieu. Peut-être que ceci dérange ta théologie, mais j'aimerais te dire, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul. Il n'y a ni homme, ni femme. Tu iras parler à Paul. Tu iras parler à Paul et lui dire, écoute, et peut-être que tu as des écrits de Paul où est-ce que tu vas dire, non, mais Paul a dit aussi que la femme ne peut pas faire telle chose, mais elle peut faire ceci. Mais là, Paul a dit que la femme peut prophétiser. Et ce que je suis en train de faire présentement, bibliquement, c'est de la prophétie. La prophétie, c'est proclamer les paroles de Dieu. Proclamer les paroles de Dieu. Amen? Alors, une autre chose que je voulais dire, c'est il y a cette étude qui a été faite par une université ici, en Ontario, qui dit que les Noirs, hein, les Noirs, les yeah, wow. Merci Seigneur. Les Noirs, mais je suis fier d'être moi-même, les Noirs sont plus portés à la sexualité que les Blancs et les Asiatiques. J'ai un ami latino qui m'a dit, et moi alors, pasteur? Je lui ai dit, toi, tu es au-dessus de la mêlée. Et j'aimerais te dire quelque chose. Il y a plusieurs études, je ne sais pas où est-ce qu'ils font, il y a certaines, ça ne veut pas dire si quelque chose est scientifique, et on croit à la science, et on aime la science, on est une église qui, on croit fermement que la science a sa place. Ceci dit, il faut quand même vérifier les études. Et combien de personnes avez-vous étudié? Dans cette même étude, on dit que les cerveaux des Noirs sont plus gros que les cerveaux des Blancs. Combien de cerveaux ont-ils vu? Et tout ça. Vous savez, je peux aller dans des lieux ici, au Canada. Je ne citerai pas la région où est-ce que le taux d'inceste est le plus élevé, pas seulement dans le Canada, là, en Amérique du Nord. Le taux d'inceste est le plus élevé. Donc, le problème de sexualité n'est pas un problème de noir, de blanc, de jaune, c'est un problème d'humain. C'est un problème de personne. Et on ne peut pas séparer ces choses-là. Peut-être tu vas dire, OK, ben, pasteur, tu es en train de me dire ça, mais pourquoi? Pourquoi alors le taux de criminalité est plus grand dans tel quartier aux États-Unis? J'aimerais te dire que, un, la pauvreté cause la criminalité, puis les gens qui sont criminels, ils n'ont pas de chaîne de télévision. Si tu es propriétaire d'une chaîne de télévision, tu décides où est-ce que tu vas faire tes entrevues et tout ça. Il y a des choses horribles qui arrivent dans les beaux quartiers. Des choses horribles. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont aussi bien positionnés dans la société. D'ailleurs, cette semaine, il y avait tout un documentaire sur un des plus grands millionnaires aux États-Unis qui a abusé ses enfants pour plusieurs années. Pour plusieurs années, les enfants étaient battus, les enfants mangeaient leurs excréments et étaient abusés. Sexuellement. Je le dis ici pas pour tuer votre. Pour ne pas respecter la pudeur ici, mais je le dis ici pour montrer que le mal est partout. Le mal est partout. Et j'aimerais te dire que c'est un mythe. C'est un mythe. Le même défi que j'ai à vivre, tu dois le vivre. Le même défi. La même discipline dont j'ai besoin, tu en as besoin. Peut-être tu te dis, tu es ici dans ce lieu et tu dis, ben moi je suis célibataire, la prochaine diapo. Moi je suis célibataire, puis j'ai du mal. Ah, j'en ai plein derrière moi là. Ou tu es une de ces demoiselles qui est en arrière, tu as cette impression, je suis après à courir, mais il y a tellement de compétition avec moi là. Je suis seul. Pasteur, vous ne comprenez pas, ça fait longtemps que je le cherche. Et je vais te donner, oui, mauvaise raison. Oui, mauvaise raison de pouvoir chercher le mariage. Oui, mauvaise raison de quitter son célibat. La première, c'est pour prouver. Quand on veut prouver à ses parents que, tu m'as toujours dit que je serais seul. Tu m'as toujours dit que j'étais pas bon à faire la vaisselle à la maison, je vais te montrer. Tu m'as toujours dit que je ne trouverais pas l'âme sœur. Dieu ne veut pas que nous nous marions. Que nous ayons cherché cette âme sœur pour prouver. La deuxième des choses, c'est quand tu te sens seul. Quand tu te sens seul. Le mariage n'est pas là afin de combler ta solitude. Non, c'est la compagnie qui est faite pour ça, pas le mariage. Si tu te maries afin de combler ta solitude, peut-être que tu vas trouver une compagne, peut-être. Mais parfois, tu vas te marier à quelqu'un qui ne veut pas être une compagne avec toi. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de compatibilité. Une autre chose, c'est les gens qui veulent fuir les conditions difficiles de la vie. Hein? Peut-être tu es ici puis tu dis, ah, ça fait certaines années que je trimballe, je tourne, ma situation financière ne va pas bien, puis je vois, lui, il est le sauveur. Ça, c'est la pire des choses, hein? Te marier au sauveur, c'est grave, parce que quand tu te maries à un sauveur, là, il va t'abuser. L'être humain, vous savez, quand tu payes quelque chose, quand tu vas au restaurant, tu payes quelque chose de cher, ou tu te payes des souliers chers, tu vas vraiment les respecter. J'aime beaucoup mes souliers, puis alors je respecte. Mais quand ça ne t'a rien coûté, tu es le genre de personne, là, il n'a même pas fini de parler, fais-le transpirer un peu. Il commence à parler, « Ah, tu sais, Natacha, je te trouve bien. » Oui! Non! Fais pas ça! C'est comme, laisse-lui le temps de parler. Laisse-lui le temps de finir, laisse-lui le temps de transpirer, lui dire qu'il a fait certaines erreurs de français et tout ça. Faut pas faire ça, mais donne-lui le temps de parler. Pour certaines personnes, ils se marient parce qu'ils veulent être affirmés dans leur estime de soi. Le mariage n'est pas fait pour nous compléter, mais il est fait pour nous complémenter. Puis par ça, je veux dire que je ne trouve pas mon estime de soi dans mon épouse. Je suis correct seul. J'ai besoin des fois de mon espace. J'ai besoin des fois de sortir. Je sais que mon épouse peut sortir, puis je peux pas l'appeler chaque 5 minutes pour lui dire « Hey, ça va là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'es où? » Écoute, ça devient collant à un moment. Décolle. Si t'es ici, puis si t'es comme ça, dis pas « c'est naturel ». Non. C'est pas naturel. OK? Chasse le naturel, parce qu'on est la nouvelle créature. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La peur. Hein? On vient de frapper le 32 ans, on dit, ah, je suis trop. Ah, est-ce que je vais rester seul? Ou bien la peur de ne plus avoir d'enfants, tu voulais avoir des enfants, puis là, tu as peur. Ne fais aucune action par peur. C'est très dangereux. Et Galates 2.20 nous encourage à ne pas faire des actions par peur. Dans l'âge ou le timing, comme je disais, et vouloir des enfants, comme je disais tout à l'heure, et le dernier, c'est si le mariage est un objectif, un but pour toi. Le mariage n'est pas un but. On n'est pas né pour se marier. Dieu n'a pas créé l'homme pour le mariage. Vous dites, oh! Il y a plusieurs. Hey, vous n'êtes pas. C'est drôle, c'est beau vous voir d'ici en haut, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas en train de me croire présentement. Tu n'es pas né pour te marier. Tu n'es pas né pour ça. Et c'est très clair dans la parole de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé pour le mariage. Il lui a donné domination sur toutes choses. Il lui a donné travail. Il a commencé à nommer tous les animaux. Il a créé afin qu'il soit son ami. Tu as été créé afin d'être l'ami de Dieu. Mais non, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes comme ces plates, ça. Je réponds pour vous, je le sais. C'est comme, ah, moi, Dieu. Mais pourquoi vous trouvez ça plate? C'est parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Ah, on pourrait entendre un stylo tomber ici. Développer une relation avec Dieu. Parce que quand on développe une relation avec Dieu, on réalise qui on est vraiment. Et c'est très important de connaître notre identité. Très important de connaître notre identité, parce qu'en connaissant notre identité, tout change. Tout change. On devient compatible à notre vis-à-vis. Et c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait un cœur d'adoration. Dieu veut qu'on ait un cœur qui est vers lui. Dieu veut qu'on l'honore. Parce que si tu n'honores pas le Créateur, comment tu peux honorer la créature? Comment? Aime Dieu et aime ton prochain. Et c'est un défi. C'est un défi. On ne se marie pas parce qu'il dit « il m'aime ». Pour les plus jeunes, il y a les plus jeunes d'entre nous, peut-être il y a peut-être un petit copain qui t'a dit « je t'aime » et là ça t'a fait chaud au cœur. J'aimerais te dire que nous tous, nous avons vécu ici, en tout cas pour la majeure partie d'entre nous, des situations où est-ce que quelqu'un t'a dit « il t'aime » puis 2 semaines après, « wow, je pensais que tu m'aimais ». C'est une belle parole, mais c'est dans les actions. Et il faut respecter la loi de l'attraction, nos pensées. Nos pensées créent notre réalité. J'aimerais te dire, la loi de l'attraction dit que mes pensées créent ma réalité. Au lieu de chercher la personne, deviens la personne que tu cherches. Les gens se marient avec un mauvais caractère. Et Dieu, aujourd'hui, veut te dire, travaille ton caractère. Travaille ton caractère. Ne te marie pas par pitié. Vous savez, la personne qui te dit « Oh, si tu me quittes, je vais sauter! » Elle saute. Ah, je sais. Saute! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que premièrement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne, et c'est toi aujourd'hui, dis juste « Seigneur Jésus, merci! » Merci! Parce que qu'est-ce qui arrive? Si tu te maries par pitié, il va y avoir un grand défi. C'est que la personne qui est en train de te manipuler comme ça va changer en un intimidateur. Le manipulateur change en intimidateur. Et vivre ta vie dans l'intimidation, good luck en anglais. Ça va pas créer une bonne relation. Et c'est pour cela que des fois, et en tant que pasteur, je vous dis, je fais ça depuis 10 ans. Tu vois des gens qui arrivent dans ton bureau, je ne le dis pas pour me moquer de personne. Vraiment, Dieu m'est témoin, du haut des cieux, j'ai beaucoup prié afin que personne ne soit blessé. Malheureusement, avec une série comme ça, vous allez peut-être être un peu affecté. Mais ceci, je ne veux pas vous faire mal, je veux vous encourager. Je vois trop de personnes qui viennent, je ne suis plus capable. Je ne peux plus la sentir, je ne peux plus respirer. Et c'est toujours intimidation ou manipulation. Je vais dire, ça a mal commencé. La fondation a été mauvaise. Bâtie sur des nouvelles fondations. Il y a certains d'entre vous, vous êtes ici puis vous voulez vous marier pour avoir des rapports sexuels légaux. Ah! Je ne suis pas capable d'en avoir, là, je veux juste me marier pour avoir des rapports sexuels légaux. Tu dis, waouh, le pasteur vient juste de briser la bulle. J'aimerais te dire, c'est une mauvaise raison. Très mauvaise raison. Parce que l'objectif du mariage n'est pas les rapports sexuels. C'est la compagnie. Premièrement, à la base, on veut d'abord chercher un compagnon de vie. Et après avoir trouvé le compagnon de vie, là, on se marie, on a cette alliance qui est le rapport sexuel, mais on veut une compagnie pour la vie. Il y a des gens qui sont connectés sexuellement, mais vraiment, là, ils s'utilisent, ils s'abusent. C'est tout ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Et j'aimerais te dire que le mariage de rêve, pourquoi on ne le voit pas à la télé? Aujourd'hui, je vais un peu dépasser les temps, excusez-moi. Le mariage de rêve, là, pourquoi on ne le voit pas à la télé? Parce que c'est plate. Imaginez-vous des gens qui s'aiment, qui sont patients. Hein, la longanimité, tu ouvres la porte. Ah, chérie, je m'excuse. Non, c'est moi qui m'excuse. Ah, tu sais, on s'aime tellement. Ah, tu sais, la vie est belle. Ah, les enfants ont besoin de quelque chose, je vais t'aider. Tu sais, à un moment, tu vas regarder ça à la télé, tu vas dire, c'est plate, là, on va regarder un autre show. Où est-ce qu'il va y avoir un peu de combat, un peu de drame? Hein? On nous a habitués au drame. C'est pour ça. Si ton mariage est plate, ça veut dire que ça va bien. Bonne nouvelle. Mariage plate, ça va bien. Et puis, il y a plusieurs personnes ici qui ne disent pas « Amen » à ça. Donc, le mariage n'est pas le but, n'est pas la finalité, n'est pas l'aboutissement. Et le mariage est un mystère. Mais ce qui est plus un mystère, c'est la relation que nous avons avec Christ. La relation que nous avons avec Christ qui est un mystère. Et quand on va dans Amos 3:3, c'est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble? » Et par deux hommes ici, c'est deux humains. Marchent-ils ensemble sans pour autant s'en être convenus. Avant de donner ta vie à quelqu'un, ben, il va falloir que tu t'assoies et que tu regardes les clauses. Et que tu vois avec ton époux les clauses. Je vais terminer, je vais conclure avec les syndromes. Et les syndromes que nous devons tous faire attention à ces syndromes. Tolstoï dit ceci, « Notre état d'esprit crée notre réalité. » Crée notre réalité. Et voici quelques syndromes que j'ai trouvés, puis j'ai mis des images juste pour que ça te reste dans l'esprit. Le premier, c'est le syndrome Mère Teresa. Vous savez, elle est cute, Mère Teresa. Mais tu ne dois jamais être comme ça dans une relation. Mère Teresa veut sauver tout le monde. C'est souvent des femmes. Souvent des femmes qui, tu sais, je l'aime, mais fais pitié. Fais pitié. Je veux l'aider dans la vie. Puis là, tu te maries avec quelqu'un, puis c'est rendu ton mariage est rendu ton ministère. Amen? Pas bon, ça. Un mariage n'est pas un ministère. Et si tu es là-dedans, prie, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, de te conduire. Il y a des services de conseiller. Il y a des gens que tu peux consulter afin de pouvoir changer la fondation. Dans ce mariage-là, je ne vis que pour toi. tu cherches à être aimé. Par tous les moyens, il boit, tu caches sa boisson, attention, t'appelles, son boss t'appelle pour dire qu'il est en retard, c'est toi qui couvres. Non, c'est pas bon ça. Mère Teresa, c'est pas bon ça. C'est super bon pour les pauvres en Inde, mais pas bon dans un mariage. L'autre mariage, c'est Proverbe 30:15 qui nous dit, « La sangsue a deux filles. Donne. » Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. C'est le mariage avec la sangsue. Cette personne-là, tu lui donnes, mais ça semble que c'est jamais assez. Et vraiment, c'est vraiment ça. Je veux vraiment que vous ayez en regardant cette image, j'en ai entendu plusieurs personnes, « Oh, c'est dégueulasse. C'est un mariage dégueulasse. » La personne qui est dans ce mariage, elle vient, elle prend financièrement, elle prend ton temps et tu n'as jamais rien. Tu ne fais que donner. À la fin, tu te demandes s'il te reste du sang. Certains d'entre vous, vous êtes mariés avec le prochain. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du narcissique. C'est quelqu'un qui aimait tellement se regarder. Il se regardait sur un lac et la légende ou le mythe dit qu'en se regardant tellement qu'il aimait son visage, il est tombé dedans et s'est noyé parce qu'il ne savait pas nager. Le narcissique s'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre de personne, il t'épouse pour te faire un service. Il te dit, écoute, t'es pas vraiment mon goût, mais tu sais, je vais vivre avec toi. T'sais, il va te rappeler à chaque fois, si je suis avec toi, c'est parce que je voulais te faire un service. Si je vis avec toi, c'est parce que, tu sais, j'avais A, B, C, D, E comme choix, mais j'ai regardé puis je voulais faire ma dîme. Je vais te donner mon offrande. J'ai pitié de toi. Et lui, il est toujours, lui aussi, c'est quelqu'un qui est plein de lui-même. Cet homme aussi se retrouve dans les églises. C'est un homme qui est toujours en train de parler de Jésus, de retraite, de prière, mais il ne s'occupe jamais de sa femme. Il vient à l'église, à chaque fois qu'il rencontre sa femme, il lui parle de jeûne et prière, quand nous allons faire telle chose, même la date avec sa femme, c'est où? C'est dans une église. Relax! Reste à la maison, regarde un film avec ton épouse, fais de quoi? Ta femme, c'est ta fleur. Ta femme, tu dois t'en occuper. Et il y a un lieu dans la vie. Jésus, des fois, il était assis avec ses disciples et ils avaient du plaisir. Il y a plusieurs fois où est-ce que Jésus raconte des histoires, il rit, ils sont ensemble. Et je crois qu'il y a un lieu dans la vie où est-ce qu'on doit être capable de savourer la présence de l'un et de l'autre. Mais le narcissique ne voit pas cela. Il voit son agenda. Même dans les églises, il voit l'agenda. Je veux que l'église grandisse. Il donne son temps à l'église, il donne son temps aux choses, mais il n'a plus de temps avec sa famille. C'est l'homme qui est toujours dans son projet. Son projet, c'est lui. Son projet de vie, c'est lui. La famille tourne autour de lui. Le dernier, lui, il est très dangereux. C'est le syndrome de possession. On en a un peu parlé tout à l'heure, on a un peu effleuré cela. Lui, là, il ne te laisse pas respirer. Il veut savoir où est-ce que tu es. Il est enclin à la jalousie. C'est le genre de personnalité qui est insécure et c'est quelqu'un aussi qui il a vécu des choses, par exemple, avec sa mère, avec son père. C'est le genre de demoiselle, tu sais, des fois, tu parles à ton épouse, elle te répond de manière « Non, c'est pas comme ça! » Mais toi, tu sais pas, elle n'est pas en train de te répondre, elle est en train de répondre à son père. Parce que son père, un jour, l'a puni à la maison ou elle se rappelle comment son père traitait sa mère. Et toi, tu as la charge négative. Le possessif, lui, il emmène toutes ses expériences. C'est des gens, même dans les églises, les possessifs, ils se rencontrent. Les possessifs sont très critiqueurs. Ils arrivent, « Oh oui, le monde est mauvais, le gouvernement est mauvais, la vie est mauvaise. » Ça, il faut faire attention. Ils sont très négatifs. Oh, Dieu est bon, mais ah, oh, oui, c'est comme Job, la maladie, elle attaque tout le monde. Très négatif. Marié au possessif, là, tu vis dans un nuage noir. Blanc. Un nuage blanc. Certaines personnes l'ont compris. Et avec le possessif, tu vis des circonstances totalement difficiles. Totalement difficiles dans ta vie. Et j'aimerais te dire que Superman et Wonder Woman sont morts. Dans le mariage, Tu dois savoir que tu n'es pas un super-humain. Nous avons tous, tout le monde, même moi, la personne qui est ici, c'est dur pour vous à croire, je sais. Même moi, la personne ici, j'ai des choses que je vois ici que je dois travailler. Et nous devons, la première chose que nous devons voir, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois travailler en moi? » Il est temps que l'Église de Dieu se lève et dise, écoute, il y en a assez d'entendre que le taux de divorce est pareil dans l'Église qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? J'en ai assez de voir que dans ma famille, il y a eu 5-6 divorces. Moi, je vais être le changement. J'en ai assez d'entendre que les relations fonctionnent. Peut-être que tu n'es pas marié ici. Tu dis, écoute, moi, je veux bâtir une famille. Je veux bâtir une relation solide. Je suis prêt à mettre les piliers. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à aller en préparation. Je suis prêt à prier pour. Je suis prêt à commencer. Moi, j'ai une mauvaise relation. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ma relation? Occupe-toi de ton jardin. Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse prospère. Esdras 10, 11 nous dit « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Par femmes étrangères ici, des gens qui ne veulent pas se repentir. Jacques 5, 16 nous dit « Confessez donc vos péchés. » Nos péchés, c'est nos manquements, c'est les lieux de nos vies où est-ce que nous disons « Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je veux une meilleure relation avec mon épouse. Seigneur, je veux une meilleure relation avec mes enfants. Seigneur, je veux te connaître comme un célibataire. Seigneur, je veux d'abord, moi, devenir la personne que je recherche parce que je sais que si moi, je ne deviens pas la personne que je recherche, je ne vais pas trouver la personne que je désire parce que si cette personne me rencontre, elle ne va pas aimer ce qu'elle voit. » Très souvent, tu cherches la personne, finalement, tu la trouves et tu vas être intéressé à quelqu'un d'autre. Et tu es intéressé à quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas travaillé en toi ce que tu recherches. Deviens la personne que tu recherches. Avant de s'attacher, il faut te détacher. Détache-toi de ton image. Détache-toi de ce que tu penses sur toi. Et n'oublie pas une chose, Adam a dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas commencé, c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Non, il ne parlait pas de ses os physiques. Il dit, à l'intérieur de moi, il y a une âme, et voilà, je vois que son intérieur est compatible avec mon intérieur. Dieu ne viole pas ta volonté. On ne se marie pas sous base d'une vision. Et la dernière chose que j'aimerais dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie, la théorie de « the one », en anglais, la personne, la bonne personne. Tu sais, si tu n'es pas marié, si tu vis des tourments, des choses difficiles dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas marié à la bonne personne. Si dans ta vie maintenant, tu trouves, c'est la diapo 34, si dans ta vie tu trouves des défis et vraiment la manière que la vie est en train d'aller pour toi et t'es célibataire, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé. Tu recherches la personne. Hein, tu veux et tu penses que Dieu va faire comme tu dors et là, ah, comme Adam. Oh, et là tu entends, là, I will never find another lover, sweeter. Hey, comment vous connaissez cette chanson-là? Oui, le pasteur n'est pas seul. Ça, c'est la vieille vie. Seigneur, transforme-moi. Et tu es là et tu t'attends à ça. Premièrement, j'aimerais te dire que si c'était vrai, on aurait tous un problème. Parce qu'il suffirait qu'une personne se trompe et nous tous, on serait avec la mauvaise personne. Une seule personne s'est trompée avec la mauvaise personne et toute la planète est avec la mauvaise personne. L'autre chose que j'aimerais te dire, dans ce défi de trouver cette personne, c'est que les médias nous vendent cela. Comme je vous ai dit au début de cette prédication, tous les films te disent que si tu trouves la personne, c'est ça la solution. L'être humain à l'intérieur recherche un messie. Mais le défi avec Jésus, ce n'est pas un messie humain. Le messie humain, il arrive, il fait tout le travail et nous on dort. Ah, gloire à Dieu, Jésus est bon. Jésus vient et te dit, voici ce que tu dois faire. Voici comment me suivre. Voici. Moïse arrive et dit au peuple, voici ce que nous allons faire. Hein? On a un symbole de plus ou moins un bel exemple de cela. Nous, on a Musiforme qui vient ici et qui entraîne nos musiciens. Et Pierre vient de Montréal, on respecte beaucoup son travail. Mais si notre équipe dort sur leur laurier, on ne verra pas de changement. En tant qu'Église, on a besoin, je vois les gars, ils sont en train de s'élargir et des fois ça leur fait mal et tout ça. Mais pourquoi qu'on veut? On veut avancer, on veut être une Église qui avance, on veut que cette équipe, on a dit, cette année, on va mettre le paquet sur l'équipe afin que quand vous rentrez ici, vous dites, waouh, Dieu est à Nouvel Espoir. Il y a quelque chose dans ce lieu-là. Et pour ça, c'est du travail. C'est du travail. Et nous savons que Pierre n'est pas le sauveur. Il est bien gentil et cool. On l'aime voir avec son épouse. Mais on ne dit pas, c'est là, le sauveur est arrivé. On sait que son travail pour nous, c'est de nous équiper. Et c'est exactement ça qui était le travail de Jésus. Jésus est venu, il a tout pris, il a dit, tout est accompli. Mais tout est accompli. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est accompli. Toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de croire en moi. Quand je te dis de faire quelque chose, tu fais. Quand je te dis de me suivre, tu suis. Quand je te dis que c'est la vérité, suis la vérité. Quand je te dis, voici les voies. Quand je te dis, les relations sexuelles hors mariage, c'est pas bon. C'est pas pour moi que je te dis ça. C'est pas pour te condamner. C'est parce que tu vas emmener ton passé dans ton présent. Et une des pires des choses, que tout le monde qui revient, tout le monde qui parle, on peut parler ici à la majeure partie des personnes, même les gens dans le monde séculier vont vous dire que leur passé souvent hante leur présent. La majeure partie des personnes, les médicaments antidépresseurs sont très populaires aujourd'hui. C'est prouvé que les jeunes qui ont des relations sexuelles avant 18 ans sont plus poussés vers le suicide et vers la dépression. Prouvé. C'est pas l'Église qui dit cela, c'est la science qui dit cela. Alors, j'aimerais te dire, dans une génération qui te pousse à devenir addicté, qui te pousse à sauter, qui te pousse à faire, écoute, les films te disent, écoute, t'es un puceau, t'es rien, tu ne connais pas la sexualité, t'es rien. Dans une génération comme ça, il faut une Église qui dit à nos jeunes, qui nous dit, écoute, Dieu le Créateur, voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pas afin que t'aies pas le plaisir, c'est afin que ton plaisir t'emmène le bonheur plus tard. J'avais tout le monde applaudissait là-dessus, mais ça va venir. En conclusion, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est que tout le monde doit aller dans 1 Corinthiens 13, 4. On lit souvent ce passage dans les mariages. La charité, l'amour et passion. Et on pense qu'en lisant le texte, qu'il devient tout à coup spirituel et que le texte va s'appliquer de lui-même. Et j'aimerais te remettre dans le contexte et dans l'esprit de Paul. Quand Paul te dit quelque chose, il te dit, tu dois l'appliquer. Alors, dans mon mariage, j'aime lire 1 Corinthiens 13, 4. Et je me rappelle toujours que l'amour ou la charité est patiente. Ou patient, si c'est l'amour. Et j'aimerais te dire que c'est plus facile à lire qu'à appliquer. Tu arrives à la maison, il y a quelque chose qui n'a pas été fait à ta manière. Le roi ou la reine est arrivé. Rappelle-toi, l'amour est patient. L'amour est patient. Et patient, en 2014, veut encore dire patient. Calme tes nerfs. Respire par le nez. C'est un travail continuel. La deuxième des choses, c'est qu'elle ne fait rien de malhonnête. Des fois, on se dit, mais je ne suis pas malhonnête. Moi, mon voisin, je n'ai pas été en prison. Mais... Ah oui, vraiment? T'es pas malhonnête. T'sais, ta femme n'est pas autour. T'as après regardé la télé, puis là, tu vois, ah, oh, elle s'approche. Bah, tu changes de chaîne. T'es malhonnête. Pourquoi tu ne regardes pas ça avec elle? Hein, tu reçois des petits textings, des petits flirts comme ça au travail. Non, des petites affaires. Oh, hey, ça va, hein? Non, mais on est juste des amis. T'es malhonnête. L'amour n'est pas, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Et qu'est-ce que j'ai pas envie de sortir les poubelles? Qu'est-ce que je vais lui dire? OK. Tu sais, j'ai prié, puis je pense que Dieu nous dirige afin que toi, tu puisses sortir les poubelles au moins 5 fois, puis moi, 2 fois. Hein, ça, c'est les malhonnêtes spirituels qui cherchent leur intérêt spirituellement. Okay? Je sens dans mon âme. Et ça, il y a des gens qui sont malhonnêtes comme ça. Ils sortent avec quelqu'un. Je sens dans mon âme qu'on doit se marier. J'ai eu un rêve. Hier, ouais. Si tu ne sens pas le rêve, cours! Il ne s'irrite point pour l'amour. Et si c'est la charité, elle ne s'irrite point. et ne soupçonne point le mal. Tu ne peux pas emmener ton vieux mariage dans ton nouveau mariage. Ton ex t'a trompé, puis là, tu es toujours après soupçonné. La personne revient. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, parce que là, tu as plein de films dans ta tête, puis là, tu vas dans le mariage. Oh, ben non, moi, je pense qu'elle triche sur moi, là. Je l'ai vu dans la série hier, Desperate Housewife. Puis tu sais, tu vas le pousser à tricher. Tu vas le pousser à le faire. Là, voilà. Oh, ben là, son téléphone, qu'est-ce qu'il a? Toujours. Dans un mariage sans confiance est mort. Dans un mariage, on a besoin de confiance. On a besoin de se faire confiance l'un à l'autre. Maintenant, si tu as perdu la confiance parce que tu as fait quelque chose, gagne la confiance. La confiance, ça se gagne. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Tu sais, ta femme ou ton épouse vient à la maison ou ton époux il vient de se faire envoyer au travail. Voilà! Je t'ai toujours dit, ta famille est toujours comme ça. Vous êtes des zéros. Des fois, il y a des... Tu sais, en thérapie, des fois, on s'assoit, puis je m'excuse, aujourd'hui, je vais finir un peu plus tard, mais l'Esprit de Dieu, on va finir à midi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Fais attention aux paroles de mort et réfléchis avant de parler. Très souvent, notre époux vient à la maison. Vous êtes toujours comme ça. Dans ta famille, vous n'écoutez pas. Moi, c'est une chose que... Bon. Je vais être ouvert avec vous, c'est une chose que j'ai déjà entendue, hein? Personnellement, pas dans mon couple, mais c'est personnellement quelque chose que j'ai déjà entendu, des phrases qui étaient comme, j'avais un ami, ses parents lui disaient, toi tu vas aller en prison, toi tu es fait pour la prison, voilà, c'était leur discipline, tu es un voyou, tu es fait pour la prison, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il est menteur. Il est un... Non, il a menti. Il n'est pas un menteur. Il a menti. Respire. Et des fois, vous savez, dans la colère, tu dis des choses, puis tu ne réalises pas, on est des fleurs. Mais n'oublie pas, si tes parents t'ont fait ça, n'oublie pas que tes parents, c'est les postiers. Vous savez, la boîte, si je peux avoir la boîte, si je suis le postier, puis je casse la boîte. OK? Puis je vous emmène la boîte, puis c'est cassé, vous n'allez pas m'appeler. Vous allez appeler la manufacture. Et la manufacture va vérifier, va dire, « Ah, le postier a cassé la boîte. » OK, si je vais faire face à mon patron et tout ça. Mais des fois, la boîte, elle tombe de la voiture, il y a une bonne raison pour laquelle elle se casse. Et qu'est-ce que la manufacture va faire? Elle va t'envoyer une nouvelle boîte. La manufacture, c'est Dieu. Tes parents t'ont peut-être transporté, ils t'ont peut-être jeté, ils ont peut-être sauté sur toi, mais lâche. C'est fini. C'est fini. Retourne à Dieu, dis, Seigneur, j'ai été cassé, brisé, ils ont sauté sur moi, ils ne m'ont pas aimé, mais toi, tu m'aimes. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et quand tu te reconnectes, tu vas voir qu'il y a un amour et il y a un point où est-ce que tu vas avoir la justice de Dieu. Elle se réjouit de la vérité. Je vois aujourd'hui plusieurs qui se réjouissent de la vérité de Christ, qui disent, « Ça, je veux m'accaparer de cette vérité. » Elle excuse tout. Oh, ouch! Mais pasteur, tu n'as pas vécu avec lui. Tu ne comprends pas, je ne suis pas capable. Pas capable. Prie. Demande à Dieu de te donner la force. Mais non, elle excuse tout, ça fonctionne des deux sens. Si tu es toujours en train d'abuser, toujours en train d'abuser, attends-toi à des conséquences. Si elle t'a excusé 10 000 fois, il y a des hommes, tu as été excusé, là, bien au-delà. Il y a des femmes, vous êtes ici, vous êtes vraiment des mères Teresa. Incroyable, tu l'as excusé au-delà de l'inexcusable. Puis toi, tu continues encore, fais attention, le jugement de Dieu est sur toi. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ah, ça, c'est pour nous. Tu sais que ça veut dire que quand elle parle, tu dois écouter. Il n'y a pas grand homme qui ont dit oui. Mais croyez-moi, je le sais votre secret. Pourquoi? Parce que ça m'arrive. Je confesse. Tu dois écouter, tu dois être focus. Il y a des larmes qui te sortent des yeux. Tu demandes, Seigneur, aide-moi. Seigneur, me voici. La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne disparaîtra pas. Oh, Alléluia. Alléluia. Je vais inviter, l'équipe à revenir en avant. Puis mon appel, il est très simple aujourd'hui. Si tu t'es reconnu, puis durant tout ce mois, on va parler, on va aborder, la semaine prochaine, pasteur Myriam va aborder le leadership. Le leadership féminin et le leadership au masculin. Comment bien leader sa famille? On va vous équiper avec des choses, on va vraiment être pratique. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être juste à la fondation. Une église en santé, c'est des familles en santé. Et pour que nous soyons une église en santé, on a besoin d'être nourri par la source. Alors, si peut-être tu t'es senti interpellé, tu dis, écoute-moi, ça c'est moi, là. Il va falloir que tu fasses une action. Ça ne va pas changer du jour au lendemain matin comme ça. Peut-être tu dis, écoute-moi, je suis dans le célibat, mais je ne suis plus capable d'être seul. J'aimerais que tu m'appelles, j'aimerais que tu appelles Pasteur Myriam. On va se rencontrer, on va s'asseoir ensemble, on va établir un plan. On va voir avec toi, dans la parole de Dieu, on va faire du one-on-one afin de t'aider à avancer. Parce qu'il y a un lieu où est-ce que tu vas trouver le bonheur. Premièrement, célibataire, afin de rencontrer la personne, si c'est le cas. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ton célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. Il y a plusieurs personnes qui, ils le disent peut-être pas, ils sont mariés depuis des années, mais ils se disent, « Oh, si seulement j'étais seul. » Savoure ta saison. Dans ta saison, donne-toi à Dieu. Apprends des nouvelles choses. Apprends à te gérer toi-même. Sois heureux dans toi-même. Sois heureux avec toi-même. On dit, aime Dieu, mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes même pas la personne que tu vois tous les matins dans le miroir? Apprécie ce que tu as. Peut-être tu es ici, tu dis, écoute, moi j'ai une situation difficile, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Ça fait des mois et des mois, je dors dans une chambre, mon épouse dort dans une autre. Tu dis, le pasteur vient juste de dire ça, comment ici, est-ce qu'il habite chez nous? Non! Il y a même des couples dans l'Église de Dieu aujourd'hui, l'Église qui grandit, qui couche dans des chambres différentes. Puis j'aimerais te dire quelque chose. Il y a un lieu où est-ce que Dieu vient réconcilier. Il y a un lieu où est-ce que Dieu vient ravivre la flamme. Il y a un lieu où est-ce que Dieu vient et peut donner ce nouvel espoir. Nous ne prêchons pas nouvel espoir parce que nous n'y croyons pas. Dieu est un Dieu transformateur. Il restaure. Il restaure des foyers. Encore aujourd'hui, et je pense que le plus grand miracle que Dieu peut faire aujourd'hui, c'est restaurer des familles. Parce que des familles en santé, c'est non seulement une église en santé, c'est une société en santé. Si on dit aujourd'hui que la société est malade, c'est parce que les familles sont malades. Il y a peut-être un lieu, tu dis, écoute, moi, pasteur, on est ensemble, on s'aime, on est bien, mais tu sais, devant Dieu, c'est Dieu qui a établi cette loi. J'ai pris des décisions, mes décisions étaient à moi et tout ça, mais maintenant c'est le temps, avec mon épouse, j'aimerais devant Dieu et devant les hommes affirmer à l'Église, affirmer à ma famille que j'aime mon épouse. Et tu n'as pas besoin de faire des gros mariages de 5 millions qui vont te faire mal. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux t'asseoir, tu peux négocier, tu peux parler à ton épouse, tu peux dire, écoute, c'est le temps. C'est le temps, moi... Se marier, c'est un projet. C'est le plus beau projet de vie que tu vas avoir. Dans tes vieux jours, il y a des choses pour lesquelles tu peux t'asseoir et dire, « Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait cette décision. C'est un beau projet. » Mais il demande de la préparation. Il demande de la préparation. Et je t'invite, si c'est toi aujourd'hui, je t'invite à venir me voir. Je dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les premières étapes? On va aller étape par étape. Et je te dis qu'aujourd'hui est un beau jour pour toi. Peut-être tu es ici, puis tu dis, tu es jeune ici, tu dis, écoute, moi, la sexualité, je suis tombé là-dedans déjà. La pornographie, je suis tombé là-dedans. Je ne sais plus comment m'en sortir. Je ne suis pas ici pour te condamner, OK? Moi, je suis un fils de pasteur, OK? À un moment, j'aimerais te dire quelque chose. Le fils de pasteur était le dealer de films pornographiques. Ici. Et Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Il y a un lieu où est-ce que Dieu veut te sauver. Et, ah, c'est pas possible. J'aimerais te dire que la majeure partie des gens ici, nous n'avons déjà mis dans notre cerveau, dans notre âme, des mauvaises choses. Et on peut se cacher derrière le masque de la religion. Moi, je ne veux pas me cacher derrière le masque de la religion. j'aimerais te dire que Dieu veut et va te délivrer. Mais il y a une discipline. Il va falloir qu'on s'assoie ensemble. Il va falloir qu'on confronte le péché. Il va falloir que tu me dises la vérité. Il va falloir qu'on ait avec un cœur. Et j'aimerais te dire que s'il y a des gens autour de toi qui te parlent, ne condamne pas, ne juge pas, prie. Parce que Dieu est un Dieu libérateur. Et Dieu veut te libérer. Et peut-être ici, tu es en train de te dire, oh, tu es venu dans ce lieu, tu dis, comment ça? Comment ils ont parlé de sexualité aujourd'hui? Comment ils ont parlé de ces choses? J'aimerais te dire qu'il y a une génération qui périt. Une génération entière qui est en train de périr et Dieu veut, au-delà de ton confort, délivrer son peuple. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ta théologie, peut-être tu viens à l'église toutes les semaines afin d'avoir un message confortable, Dieu veut te déranger. Peut-être toi-même, tu es défié par ça. Je peux parler à l'homme qui a toujours besoin de prière avant d'approcher son épouse. Vous savez, quand Adam a vu Ève, c'est la première fois qu'on a parlé en langue. Il a vu Ève, il a dit « Rokoto robo shanda raba senderebe sinderebe sokoto robo shande ». Elle est jolie. J'aimerais te dire que si dans ton foyer ça ne marche pas parce que tes yeux ne voient plus ton épouse comme au début de ton mariage, il y a un lieu où est-ce que Dieu veut te rencontrer. Nous sommes des êtres avec des besoins. Et si tu ne rencontres pas les besoins de ton époux, de ton épouse, il y a quelque chose, il y a une séparation qui arrive. Paul dira même que ne vous séparez pas de peur que de tomber dans l'impudicité. Et j'aimerais te dire aujourd'hui est la journée de délivrance pour toi et ton couple. Inclinons nos têtes. Père Céleste, tu as entendu mon cœur. Tu sais ce que je désire, plus que tout. Je désire de voir des vies transformées. Je désire de voir des familles revenir à toi. Je désire de voir des gens voir que ce que tu fais, c'est bien. Je désire que ces foyers grandissent et que même des gens de leur famille disent, « Wow, quel exemple! Quel exemple ils sont! » Seigneur, nous ne sommes pas ici pour la religion. Tu connais mon cœur. Tu sais que quand tu m'as appelé, j'ai dit non, je ne veux pas la religion. Que si tu m'appelais, Seigneur Jésus, que c'était pour la réalité, pour voir des vies transformées. Alors Seigneur, toi tu dis dans ta parole que tu es fidèle, fidèle à ta parole. Tu m'as dit de proclamer cette parole sans aucune gêne. Tu m'as dit de proclamer cette parole en toute franchise, avec clarté. Tu m'as dit de rien cacher. Seigneur, devant toi, Seigneur, j'ai été fidèle. Et je te demande à ton tour d'être fidèle, Seigneur. Réponds au désir de mon cœur, Seigneur. Ce matin, je veux que les âmes soient touchées, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux que tous ceux qui entendent ce message, que ce soit par le biais des médias, que ce soit par le biais de l'Internet, je veux que tous ceux qui entendent ce message se disent, « Seigneur, il est temps que tu nous transformes. Il faut que ça change. Ça va commencer à changer par moi. » Oui, peut-être mes parents ont vécu un divorce. Peut-être que j'ai eu des défis. Peut-être que moi-même, j'ai vécu un divorce. Peut-être que moi-même, je suis pris par les liens de la pornographie, du mensonge. Mais Seigneur, il est temps que ça change. Mon foyer est en train de mourir. Il est temps que ça change. Je veux donner un autre exemple à mon foyer. Ce n'est pas la culture que je veux, c'est la culture du royaume des cieux. Pas ma culture, ta culture. Pas mon gain, mais ton gain. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans les cœurs. 2014, c'est des familles en santé à l'Église Nouvel Espoir. 2014, c'est des hommes qui reviennent à leurs épouses. 2014, c'est des femmes qui trouvent premièrement, qu'elles sont en Christ afin de trouver la douce moitié qu'elles recherchent. 2014, c'est des gens célibataires qui réalisent que le célibat n'est pas une poisse, n'est pas un lieu de malédiction, mais un lieu où est-ce que Dieu veut les rencontrer. Et je te remercie pour ce que tu fais dans ton nom tout-puissant. Et ceux qui l'aiment peuvent dire amen, amen et amen et amen. Applaudissez Jésus. Bon dimanche. Bon dimanche. Et ne manque pas de parler à quelqu'un.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.